Canal Académie. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
La photo en noir et blanc est datée du 29 septembre 1938. Au premier plan, quatre hommes fixent gravement la caméra. Hitler, Mussolini, le premier ministre britannique Neville Chamberlain et le président du Conseil français Édouard Daladier. Les quatre dirigeants s'apprêtent alors à signer les accords de Munich qui entérinent le sort des Sudètes. La Tchécoslovaquie est sur le point d'être sacrifiée sur l'autel d'une paix illusoire. Et à l'arrière-plan de la même photo, quelques hommes se font discrets. Des diplomates, les hommes de l'ombre de la funeste négociation. Maurizio Serra de l'Académie française les met en lumière dans son dernier livre qui s'intitule « Munich, 1938, la paix impossible ». L'auteur a enquêté sur les coulisses de la conférence qui précipita le monde dans la Seconde Guerre mondiale. Nous avons la chance de le recevoir à notre micro aujourd'hui. Maurizio Serra, bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation.
Alors, vous êtes écrivain, le premier Italien à rentrer sous la coupole, mais vous avez derrière vous une longue carrière de diplomate également. Vous avez été en poste à Londres, à Paris, Berlin et Moscou, des villes au premier plan dans votre dernier livre, La paix impossible. Est-ce que ce sont toutes ces différentes expatriations européennes qui vous ont conduit à écrire un livre sur la conférence de Munich ?
Effectivement, le sujet était fascinant parce que c'est une plaque tournante de ce qu'aurait pu être une différente identité européenne. Car en fait, on a créé autour de Munich une légende très négative que, d'une certaine mesure, la conférence mérite. Mais ce n'était pas encore la fin du monde de l'entre-deux-guerres. C'était régler le sort des Sudètes d'une façon qui était certes brutale et contraire au droit international, dans la mesure où le pays le plus concerné, la Tchécoslovaquie, n'était pas présent à Munich. Mais à côté de cela, on aurait pu limiter les dégâts. Et c'est ce qu'on n'a pas voulu faire. C'est la raison pour laquelle, alors que beaucoup d'analyses historiques, même pointures et excellentes, termine avec Munich, j'ai consacré un chapitre final de mon livre à l'après-Munich.
Alors je voulais, pour commencer, recontextualiser un petit peu le sujet. Nous sommes en 1938, l'Autriche a été annexée par l'Allemagne nazie quelques mois plus tôt. Hitler poursuit son rêve de grande Allemagne. Il veut maintenant donc aller un cran plus loin et rattacher les Sudètes à son territoire. Les Sudètes qui sont donc une région de la Tchécoslovaquie, un état limitrophe de l'Allemagne qui a été constitué en 1918. Le dictateur allemand va se saisir de ce statut assez récent pour le contester. C'est comme ça que tout commence.
Oui, alors c'est une grande forfaiture de l'histoire, parce que les Sudètes étaient germanophones, à très grande majorité, mais n'avaient jamais été historiquement allemands. Ils avaient appartenu à la couronne des Habsbourg, donc à l'Empire austro-hongrois, et ils avaient été historiquement, pendant trois siècles, en bonne relation avec leurs proches voisins qui étaient de Bohême et de Moravie. Donc il n'y avait pas vraiment un clivage des communautés. Ce clivage est exploité par une propagande nazie à partir de 1933 qui, comme d'autres moments de l'histoire, nous l'avons vu, prête ce funeste nationalisme à des régions qui finalement sont multi-ethniques et qui vivent en bonne relation. D'où la propagande qui ira jusqu'à l'idée des Sudètes allemands.
Et en réalité, vous expliquez que Hitler se souciait assez peu du sort des Sudètes. Ce qui l'intéressait, ce qu'il visait, c'était la destruction de la Tchécoslovaquie. Tout était déjà annoncé à l'avance. Dès les années 20, Hitler avait été clair sur son projet dans Mein Kampf, qu'il avait rédigé en détention. En 1937, il avait établi ce fameux plan vert où il annonçait ce plan d'attaque contre la Tchécoslovaquie. Vous avez cette phrase assez marquante, page 13, vous dites « Le moins coupable fut peut-être Hitler, dont les intentions malfaisantes étaient connues depuis longtemps.
Mais oui, mais c'est extraordinaire. Il faudrait vraiment consacrer, on l'a peut-être fait, à la non-lecture de Mein Kampf, une sorte d'exégèse de ce qu'a été le XXe siècle. Comment un dictateur a-t-il pu mettre de cette mesure, d'une façon si évidente, ses buts de conquête? L'Autriche, la Tchécoslovaquie, Memel, Danzig, tout cela a été écrit, on n'a pas voulu le lire. Et pourtant, il y avait des traductions, des versions. Mais pour revenir au nôtre, il est certain que les Sudètes, du point de vue de la population des 3,5 millions de Auslandsdeutsche, c'est-à-dire d'Allemands, de germanophones, ce serait mieux de le dire, de l'étranger, ne l'intéressaient pas du tout. Il voulait mettre la main, par les Sudètes, sur le butin de l'armement et des mines de Bohême, qui étaient, à l'époque de la Grande Guerre, qui correspondaient à 70% du potentiel militaire de l'ancienne Autriche-Hongrie.
C'est ça, la Tchécoslovaquie est dotée d'une économie très moderne, en fait, qui intéresse
tout à
beaucoup.
Fait, tout à fait, pas seulement d'une économie, d'une société, d'une vie publique. Alors, évidemment, il y a à côté de cela des maladresses. On aurait pu en faire un État fédératif, comme d'ailleurs les premiers accords entre les communautés tchèques et slovaques à Pittsburgh, aux États-Unis, au moment de l'exil, le prévoyaient. On aurait pu doter d'un certain statut d'autonomie les Sudètes. Cela aurait pu éviter de donner à la propagande nazie cette composante revanchiste qu'elle aura à partir de 1933.
Alors pourquoi cette passivité face à Hitler? Vous nous donnez quelques éléments de réponse, notamment à travers des petites biographies des dirigeants européens de l'époque, puisque vous avez écrit avant ce livre, Maurizio Serra, de nombreuses biographies d'artistes, d'écrivains surtout, et d'hommes politiques aussi. Et dans ce livre, La paix impossible, vous avez choisi de mettre en lumière des aspects biographiques des protagonistes de la conférence. Voilà, vous débutez en brossant les portraits de Chamberlain, de Mussolini, de Daladier. Vous nous donnez à voir les caractères de ces hommes derrière le masque politique. Ça, c'est un parti pris très éclairant pour comprendre les dessous de l'histoire. On ne peut pas saisir les coulisses et pleinement cette conférence de Munich si on n'a pas en tête les personnalités qui étaient présentes.
Oui, vous avez parfaitement raison et je vous suis reconnaissant de cette question. Vous savez, je suis contre cette sorte de damnation de Daladier, de Chamberlain. Il correspondait à l'esprit du temps. C'est un vaste sujet pour les démocraties. C'est-à-dire, on ne peut pas considérer qu'à l'époque, Chamberlain et Daladier, dans leur effort d'apaisement d'Hitler, n'interprétaient pas leurs opinions publiques, et pas seulement leur électorat, ça allait bien au-delà. Chamberlain est, à ce moment-là, en 38-39, le plus populaire premier ministre britannique depuis le duc de Wellington, le vainqueur de Napoléon. Donc, nous sommes dans une perspective où ces hommes étaient ovationnés par des opinions publiques dont le grand spectre que nous pouvons à peine imaginer aujourd'hui était celui de la terrible saignée des gueules cassées, des massacres de la Grande Guerre. Donc on ne voulait pas de ça. Alors, l'erreur en tout cela est de considérer qu'un homme comme Hitler, un personnage luciférin, un personnage qui dépassait toutes les normes de l'époque, s'arrêterait à l'Europe centrale, s'endiguerait dans cette mesure, l'Autriche, un peu de Tchécoslovaquie, et puis voilà, le reste redeviendrait plus ou moins la carte de l'Europe telle qu'elle avait été dessinée par les traités de paix. On n'a pas compris la dimension, si l'on veut, diabolique au sens faustien, au sens goethien, de ce que Hitler représentait. Quelque chose qui n'était pas dans les normes de la diplomatie et de la politique européenne de l'époque.
Et là, vous parlez du traumatisme de la Première Guerre mondiale.
Mais évidemment.
C'est principalement ça qui explique cette
position. Bien sûr, bien sûr. Comment imposer à des opinions publiques qui ont dans leur mémoire collective, mais traversons la France, traversons l'Angleterre, traversons l'Allemagne, et voyons tous les monuments aux morts, tous les villages où des garçons, et parfois des filles, parce qu'il y a eu quand même un effort de guerre féminin, hein, ne l'oublions pas, même dans les arrières, mais quand même important et sacrificiel. Alors, comment répéter tout cela 20 ans après ? On n'en voulait pas. On n'en voulait pas pour un pays qu'on connaissait pas, qui était un peu en marge de l'Europe, oui, qui était un pays civilisé, qui avait donné le suffrage aux femmes, qui avait des marges de responsabilité démocratique importantes, que tout le monde aimait, visiter Prague, visiter Vienne ou presque Paris. La vie sociale et mondaine et culturelle était très importante. Sans doute, le plus grand écrivain du XXe siècle, Franz Kafka, était un juif allemand de Prague. Donc, tout cela va bien, mais à côté de cela, pourquoi faire la guerre, mon Dieu, pour cela ?
Chamberlain, voilà, je le cite, qu'il est horrible, cauchemardesque, que nous soyons contraints de creuser des tranchées dans nos parcs et porter des masques à gaz dans un pays lointain entre des gens dont nous ne savons rien. Il parlait de la Tchécoslovaquie.
Oui, et je me permets d'ajouter, dont rien ne nous importe, parce que finalement, lui s'était rendu à l'idée historiquement fausse d'un retour des Sudètes. Vous savez, le slogan de la propagande allemande, qui était percutant, mais qui était faux, était « Heim nach Deutschland », c'est-à-dire « retour à la patrie ». Il n'avait jamais été allemand. Il ne le savait même pas. Et d'ailleurs, à l'intérieur de l'exode dramatique, tragique des populations non germanophones après le retour, après le passage des Sudètes à l'Allemagne, conséquence de l'accord de Munich, il y aura également la fuite d'un certain nombre d'Allemands non nazis qui étaient restés sociodémocrates, libéraux, nationalistes, juifs et non juifs, non nazis.
Alors là, vous avez tout à l'heure nuancé le rôle et la responsabilité de Chamberlain en expliquant que cette stratégie d'apaisement avait commencé avant que lui n'arrive au pouvoir. On peut dire un mot aussi sur Édouard Daladier, qui est le président du Conseil français de l'époque, figure du parti radical, on le surnomme le taureau du Vaucluse. Alors, le taureau est un animal qu'on dit agressif. Là, on en est loin avec Daladier, qui ne se montre pas très offensif non plus pour lutter contre les plans d'Hitler. Non ? Vous voulez nuancer ça ?
Il y a quand même une différence entre les deux personnages et, bien évidemment, les deux pays. Alors, commençons par l'Angleterre, le Royaume-Uni. Chamberlain hérite d'une situation d'apaisement qui le précède quand il devient Premier ministre en 1937. C'est-à-dire l'idée qui était très amplement représentée à ce moment-là au Royaume-Uni, moins en France, que les traités de paix de 1919 avaient été excessivement punitifs à l'égard de l'Allemagne. Donc, nous avons également l'opposition anglaise à l'occupation franco-belge de la Ruhr, de la Rhénanie, en 1923. Donc, il y avait déjà l'idée que pour réincorporer l'Allemagne, grande puissance du centre de l'Europe, incontestablement, à un contexte européen, il fallait faire des adoucissements dans ce qu'avaient été les traités de paix. Donc c'était une position d'apaisement des gouvernements de Macdonald, qui était un national libéral, d'origine labouriste d'ailleurs, et de Stanley Baldwin, conservateur, que Chamberlain avait hérité. La différence, c'est qu'à ce moment-là, les plans agressifs de Hitler étaient beaucoup plus évidents. Donc, on ne se trouvait pas dans une situation dans laquelle l'Allemagne était une Allemagne weimarienne, plus ou moins désireuse de retrouver son rôle en Europe, mais avec laquelle on aurait encore pu composer. Et on avait composé au moment des accords de Locarno de 1925. C'était 10 ans plus tard, c'était l'Allemagne de Hitler, et à ce moment-là, le plan qui était, je le répète au lecteur de Mein Kampf, très clair, de la conquête successive de l'Europe centrale, visant après cela au Lebensraum, à l'occupation de l'espace vital, disons, ex, qui aurait dû être ex-soviétique, donc russe, était très clair. Bon. Côté français, nous sommes dans une situation différente. Les Français ont, avec la Tchécoslovaquie, qui est une créature de la France au traité de paix, la Tchécoslovaquie née sur les fronts baptismaux en France, au moment de la conférence de la paix, grâce à Paris et à Washington. Après quoi, Washington se défile, nous savons, toute la situation du néo-isolationnisme. Mais la France a des accords précis, à un accord de 1924, le traité d'amitié et d'alliance avec la Tchécoslovaquie, qui est repris dans les accords de Locarno de 25. Donc, elle se trouve dans une situation extrêmement malaisée et je ne puis cacher une certaine sympathie humaine pour Daladier, qui est l'homme, le seul homme qui certainement souffre à Munich, souffre de sa démission personnelle et souffre surtout de la démission du grand pays qu'il représente.
Rares sont les personnes qui, à l'époque, s'opposent à cette stratégie d'apaisement. Il y a deux camps qui s'opposent dans le cadre de cette conférence, les Munichois et les anti-Munichois. Alors aujourd'hui, personne ne voudrait être taxé de Munichois, qui est devenu un terme très péjoratif. Mais à l'époque, c'est pourtant l'esprit qui plane. Est-ce qu'il y a des anti-Munichois ? Qui sont-ils ?
Non, les anti-Munichois, nous les connaissons parce qu'ils ont mérité une littérature successive. Ils ont mérité, comment dirais-je, du bien de la patrie parce que c'était des hommes, Louis Weil, René Cassin, Georges Bernanos, Henri de Kérilly, dans des camps d'ailleurs complètement différents et qui n'étaient pas reliés entre eux. Hein. On trouvait vraiment de tout.
On ne peut pas les classer sur les chiffres politiques.
Non. Il y a une convergence de ces hommes qui sont des monarchistes, qui sont des libéraux, qui sont des socialistes, qui sont des catholiques, contre la démission de la France. C'est un peu ce qui se passe en 40 dans la première épopée de la France libre. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Et c'est bien, parce qu'il y a quand même l'idée que la France est une grande puissance et la grande puissance ne peut pas renier ce qu'elle a fait pour aider une jeune nation à devenir autonome et viable dans le contexte international. Alors, les anti-Munichois, c'est plus complexe. Les anti-Munichois, c'est plus complexe parce que, d'abord, ils sont une majorité. Ça, c'est incontestable. En 38, en 39, avant et après les accords de Munich. L'accord, parce qu'il y a cette vision, enfin, les accords. Il y a un accord bâclé, qui est une page et demie très mal écrite, qui ne résisterait pas à un examen de première année de droit public dans n'importe quelle université. La preuve qu'on l'a écrit vraiment...
Vous le mettez à la fin, d'ailleurs,
oui, on peut le dire. Parce que là, on l'a écrit, là, on voulait écrire n'importe quoi. Les Allemands acceptent l'idée d'occupation, Besetzung, qui est le contraire, il faudrait dire retour. Occupation est un terme juridique du droit international inférieur à celui de retour au rétablissement de la souveraineté. Enfin, mais revenons à l'attitude française. L'attitude française est largement munichoise. Elle a deux composantes. Une composante réelle, une composante, si l'on veut, d'égoïsme sacré, c'est-à-dire, oui, évidemment, nous avions des engagements avec cet État. La situation internationale a évolué. Nous sommes isolés. Que pourrions-nous faire ? Et donc, il faut trancher dans le sens du réalisme. Et puis, il y a une attitude qui est déjà défaitiste, qui est de dire, mais au fond, cette Tchécoslovaquie, que nous importe-t-elle ? C'est un État pratiquement factice. Les Sudètes n'auraient jamais dû être incorporés. Alors que André Tardieu, qui était proche collaborateur de Clemenceau et puis président du Conseil, rappelle que c'est par la France que les Sudètes ont été incorporés à la Tchécoslovaquie. Bon. Et donc, on n'en a que faire. Et donc, retranchons-nous dans nos dimensions nationales. Nous ne sommes pas en condition de faire la guerre à l'Allemagne. pour et surtout pour la Tchécoslovaquie et pour les Sudètes.
Je voulais revenir sur les principaux acteurs de cette conférence. On les connaît, oui. On les a cités. Mais vous mettez, c'est ce que je disais en introduction, vous mettez en lumière des personnalités moins connues du grand public, en tout cas qui ont tenu un rôle important dans ces négociations. Ce sont ces fameux diplomates qui ont travaillé dans l'ombre. Alors, je cite quelques noms. André-François Poncet, Robert Coulondre, Alexis Léger aussi, qui a participé à la conférence. Alexis Léger, qu'on connaît aussi sous le nom...
Évidemment.
...de Saint-John Perse. Voilà, votre livre met en lumière toutes ces personnalités. Qu'est-ce qu'on apprend d'eux ?
Peut-être c'est un petit souci d'ancien diplomate qui me pousse à une complicité envers ces personnages qui, à mon avis, dans l'ensemble, ont essayé d'agir de leur mieux. Je ne le dis pas par une sorte de complicité de carrière. Je le dis parce que j'en suis convaincu. Je crois avoir lu ou parcouru la plupart de leurs dépêches, de leurs écrits. C'était des fonctionnaires honnêtes, clair et qui avait une vision de ce qu'étaient les enjeux. Que ce soit les Français, les Anglais, les Allemands, les Italiens, on a moins accès à la correspondance diplomatique russe, soviétique, qui est moins publiée. Les Tchèques, qui étaient excellents. Malheureusement, on revient toujours à un élément qui intervient dans toutes les crises internationales. Les diplomates peuvent avoir un rôle, à mon sens, souvent positif, d'aiguillonner, de poser les problèmes, d'envisager des solutions, mais les décideurs politiques ont d'autres enjeux. Et voilà donc la différence qui se fait entre le diplomate. Mais j'ai quand même, je crois avoir été le seul, souhaité leur consacrer un chapitre pour démêler vraiment ce qu'ils souhaitaient à ce moment-là, dans la mesure où j'ai pu le reconstruire.
Alors, je reviens à la conférence de Munich, qui a donc lieu les 29 et 30 septembre. Oui. À la table des négociations, les dirigeants européens, et puis les conseillers diplomatiques. Un mot sur le choix de la ville Munich, c'est le Duce, c'est Mussolini qui a choisi.
Oui, ça c'est prouvé. Hitler lui donne le choix entre Berlin, Francfort et Munich, et la raison, à mon sens... Ça, ce n'est pas prouvé. Ça, c'est ce que je me permets d'imaginer, d'hypothéser, c'est que le choix de Munich vient du fait que Berlin, Francfort, de Rome, cela signifiait pour lui un trajet en avion à l'époque de 2 heures, 2 heures et demie. Bon, Munich, c'est par le train de nuit. Et le train de nuit, comme il connaissait relativement mal le dossier, et il n'avait pas, jusqu'au dernier moment, décidé d'être le médiateur de la conférence... Et l'homme était un gros bosseur, lui permettra d'étudier bien le rôle qu'il souhaiterait avoir, qui est dans une position que je pense a été effectivement d'une médiation éclairée.
Vous dites sur lui, sur Mussolini, qu'il fut celui des 4 hommes qui œuvra avec plus de conviction pour accorder à l'Europe un peu plus de réussite.
Mais évidemment, parce que... La conférence de Munich naît à un moment où le sort des Sudètes est déjà réglé. Ni Chamberlain, ni Daladier, les représentants des grandes démocraties européennes, auraient risqué la guerre pour les Sudètes. Donc le bluff allemand, parce qu'il y avait une composante de bluff, les Allemands n'étaient pas en condition à ce moment-là de faire la guerre en Occident. Donc, le bluff allemand avait déjà réussi. Ce qu'il s'agissait était de, si vous voulez, limiter les dégâts, non ? Ce que nos amis anglo-saxons, je ne sais pas si je puis le dire sur une chaîne de l'Académie, appellent « damage limitation exercise », c'est-à-dire le fait de limiter les dégâts, et c'est ce qu'il a fait. À mon avis, il a fait brillamment, et comme souvent dans l'histoire, le moment où il a été le grand diplomate de l'Europe a précédé le moment de sa perte.
Et toujours pour continuer sur Mussolini, vous avez écrit une biographie sur l'homme.
Tout à fait.
Le mystère Mussolini, oui. C'est le titre du livre, une personnalité énigmatique. Il a toujours été difficile de savoir ce qu'il pensait, ce qu'il avait en tête. Même aujourd'hui, on a encore du mal à le lire, les archives ont du mal à parler et à nous éclairer sur cet homme.
Le personnage est un personnage à tiroir, est un personnage absolument rentré. Toute cette frime, toute cette pose, 13 années 30, où il apparaît sur, jusqu'à la caricature, Chaplin en a fait un rôle dans Le Grand Dictateur, mais cela cachait une image extrêmement rentrée, extrêmement secrète. C'est un homme qui n'avait pas d'intime, qui n'avait pas d'affect. Enfin, nous entrons dans un autre monde. Mais à Munich, il comprend une chose. Il comprend qu'il faut composer. C'est-à-dire, il a une perception claire, me semble-t-il, j'ai essayé de l'étayer dans les documents, et puis la lectrice, le lecteur dira ce qu'il en pense. Il comprend qu'il y a quand même un niveau d'humiliation que l'Angleterre et la France ne pourront pas accepter. Donc, si on endigue les Sudètes, ce qui était déjà prévu avant, très bien, mais il ne faut pas aller plus là. Il ne faut pas aller jusqu'au fameux, ce que j'appelle le plan B. Je viens du droit international et j'ai toujours eu une petite passion pour cela, donc je compare, c'est un peu technique, les deux plans A et B. Le plan B de Ribbentrop était carrément le plan de la fin de la Tchécoslovaquie, qui aura lieu 6 mois plus tard, bien sûr, mais qui, à ce moment-là, n'était pas prévu à Munich, dont le rôle était de régler le sort des Sudètes. Et donc, il veut endiguer. Il veut endiguer, il veut poser. On s'est beaucoup moqué de cette conférence internationale des ambassadeurs, qui pourtant a eu pendant un mois et demi un tel rôle que les Allemands ont essayé de la s'aborder sur les nouvelles frontières de la Tchécoslovaquie d'après Munich.
Et il y a de grands absents aussi autour de cette table de négociation.
Ça, c'est une autre affaire.
Vous avez parlé de la Tchécoslovaquie, ce qui est un comble quand même, parce que c'est le
Ah oui,
c'est
non,
le
mais ça, c'est tout
concerné.
À fait contraire au droit international. C'est du point de vue un des éléments qui pourrait porter à la nullité de l'accord. J'en parle dans la conclusion en parlant de l'attitude des Anglais, des Français et des Allemands par rapport à ce point. Mais il y a également derrière la non-présence de la Tchécoslovaquie, qui est moralement et juridiquement odieuse, l'absence quand même au moins d'un acteur majeur qui s'appelle l'Union soviétique.
Pourquoi cette mise à l'écart ?
Eh bien, la raison est simple. D'une part, on n'en voulait pas. Ce qui est évident, on n'en voulait pas, et ce n'était pas seulement Hitler, hein. C'était Daladier et Chamberlain n'en voulaient pas. Mussolini était plus possibiliste parce qu'après avoir accepté mal volontiers le rôle de médiateur, il s'est dit, en opportuniste politique qu'il était, bon, si je dois être médiateur, au moins que ce soit devant tout le monde. Donc autant avoir les Russes, qui en plus l'auraient épaulé dans la tentative de limiter les dégâts de l'expansion allemande en Europe centrale. Bon. Mais à côté de cela, il y avait de fortes résistances parce qu'on savait que l'Union soviétique avait décidé déjà, en tout cas l'Union soviétique, ça veut dire Staline, de trancher du côté du vainqueur. Et le vainqueur de Munich et surtout de l'après-Munich étant Hitler, c'est la raison pour laquelle Staline commencera sérieusement à penser à l'accord dit Molotov-Ribbentrop d'août 1939.
Donc les négociations se poursuivent sans la Tchécoslovaquie ni l'Union soviétique. Et je me permets d'avancer un peu. Comment va réagir l'opinion publique ? Alors je pense surtout à la France et au Royaume-Uni après cette conférence.
Oui, alors on plébiscite la paix. Mais on la plébiscite, vous savez, on la plébiscite en Italie, en Allemagne aussi. Malgré le tocsin des dictatures, les gens sont dans la rue. Personne en Europe ne veut d'une guerre. Mais pourquoi voudrait-on d'une guerre ? Donc, il est évident que ce courant porte. Il y a quand même, restons à la France et à l'Angleterre, une différence. Chamberlain se fait un peu embaumer dans ce rôle. N'oublions pas une chose. Chamberlain est arrivé à Munich porteur d'un accord dans l'accord, parce que l'accord sur les Sudètes l'intéresse un peu, mais ce qu'il veut rapporter à Londres, et c'est le papier dont les photographies nous montrent qu'il sera là pour le présenter à la foule à son arrivée à l'aérodrome de Heston, est le petit accord « Peace for our time », c'est-à-dire l'accord, disons, « plus jamais guerre », qui ne vaut strictement rien, ni du point de vue juridique, ni du point de vue moral, mais qui est une sorte de... Bon, voilà. Qu'il arrive à signer avec Hitler le matin avant de repartir à 10 heures, donc le matin du 30, après les accords. Voilà. Donc, on est convaincu que c'est la paix. On est convaincu que la signature de Hitler sur cet accord est une signature de gentleman et que ça va conserver la paix. L'attitude de Daladier est plus complexe. D'abord, nous savons tous par des témoignages qu'il est surpris par cet accueil de la foule à son arrivée au Bourget et qu'il l'aurait même qualifié d'une phrase très gauloise.
Bon. Allez, conf.
Bon, il y a plusieurs versions. Mais, le fait est, il faut lui attribuer ça positivement, que son discours de présentation des accords au Palais Bourbon, le 4, si je ne m'abuse, si on le compare à celui de Chamberlain, est beaucoup plus austère et même froid. Il dit pratiquement, nous Français, nous avons gagné une pause dans cela. Cela ne veut absolument pas dire que la guerre sera inévitable, donc préparons-nous. Et dès le lendemain, avec son très efficace ministre des Finances, qui est à ce moment-là Paul Reynaud, il commence à préparer, dans la mesure du possible, c'est tardif, mais quelque chose en fera, l'effort de guerre français en vue d'un nouveau conflit.
La passivité face à l'agression ne fait que renforcer les dictatures et encourager leurs mauvais agissements. C'est une phrase que l'on rencontre dans votre livre, mais qui pourrait tout à fait être lue dans la presse d'aujourd'hui. Ce livre, c'est aussi un cri d'alerte contre les menaces qui nous guettent. Enfin, c'est ce qu'on lit aussi entre les lignes. C'est la raison première qui vous a poussé à l'écrire ?
Non, alors, pas du tout. Pour tout vous avouer, l'origine du livre n'a rien à voir avec l'actualité, en tout cas avec la dernière phase tragique de l'actualité, parce que le livre a été conçu en même temps et successivement au Mussolini, c'est-à-dire avec mon éditeur et ami Benoît Hiver, on s'était dit... Il faudrait préciser le cadre de cette diplomatie de l'entre-deux-guerres dans un moment précis. Et quel moment plus topique, plus caractéristique, communique, surtout que le dernier ouvrage scientifique sur Munich du côté français avait paru depuis plusieurs années. Donc c'était un chrono éditorial à creuser. Et on ne s'était pas posé le problème de l'actualité. Évidemment, l'actualité nous a rattrapés. Alors, qu'est-ce qu'on peut en sortir de tout cela? Eh bien, écoutez, évidemment, les comparaisons entre époques et entre moments sont toujours difficiles. Mais je pense qu'un enjeu reste, c'est-à-dire une démocratie forte a plus d'autorité avec des dictatures qu'une démocratie craintive. Mais là encore, où se situent les enjeux? C'est-à-dire, qui est derrière tout cela? Qui aurait souhaité de Daladier, dont je me fais de ce point de vue un peu l'avocat, qui aurait souhaité de Daladier une attitude plus forte vis-à-vis des visées de Hitler? Il aurait fallu une sorte de vision de l'avenir que l'opinion publique n'avait pas. Alors, quand on me dit que De Gaulle et Churchill à la place de Daladier et Chamberlain auraient fait à Hitler une toute autre impression à Munich, mais c'est de l'Uchronie, et ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là parce que leurs opinions publiques démocratiques n'en voulaient pas. Ils voulaient ces sortes de leaders. Donc il n'y aurait pas eu Daladier, il y aurait eu Chotan, il y aurait eu Bonnet, mais il y aurait eu cette sorte d'hommes plus ou moins ouverts à ce qu'était une politique d'apaisement. Voilà, donc il faut bien considérer que l'opinion publique dans son ensemble n'est pas innocente dans les grandes crises de l'histoire. Et c'est un très modeste message qu'à mon très modeste niveau, j'essaie d'essaimer dans ce livre.
Est-ce que vous pensez tout de même que l'on puisse tirer des leçons du passé, malgré tout ?
Oui, enfin, il faut tirer des leçons du passé. Il faut tirer des leçons du passé des guerres napoléoniennes, il faut tirer des leçons de la Renaissance. Mais il faut considérer toujours que dans le contexte, dans les contextes actuels, les choses évoluent. Et il est certain que deux erreurs démocratiques, donc qui n'ont rien à voir avec Hitler, lui ont fourni quand même des éléments, et c'est navrant, c'est que les traités de paix avaient une vision punitive, et là encore demandée par les opinions publiques, donc il fallait non seulement que l'Allemagne paie, l'Autriche-Hongrie avait été démembrée, donc là n'était plus la question, mais qu'elle s'assume la responsabilité de la Grande Guerre, ce qui est faux. Tous les décideurs, à ce moment-là, en 14, ont perdu la tête. Et d'autre part, il aurait fallu prouver qu'une Tchécoslovaquie fédéraliste, où n'oublions pas que les Sudètes avaient une majorité social-démocrate et national-libérale, c'est-à-dire conservatrice, jusqu'en 1933, ils avaient envoyé à Prague des parlementaires et des ministres excellents et qui étaient unionistes. Donc il aurait fallu avoir l'intelligence politique de comprendre que ces marques, ces régions, devaient être d'une certaine mesure plus incorporées dans l'identité nationale. Mais enfin, l'historien ne doit pas juger, il doit fournir les pièces à conviction et puis c'est le lecteur qui aura son opinion.
Dédier ce livre à Hélène Carrère-Doncos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française jusqu'à sa mort en 2023. Elle fut aussi une grande spécialiste du monde russe et communiste. Et elle avait fait graver sur son épée d'académicienne le verset biblique suivant « Heureux les pacifiques ». Et cette même épée qu'elle avait appelée « Joyeuse », un message d'espoir contre les fanatismes. C'est un espoir que vous partagez également.
Ah oui, je le partage. Alors d'abord, merci de me faire penser. Ma dévotion profonde va à Hélène pour deux raisons. Une, disons, professionnelle et une personnelle. Professionnelle parce que c'est une très grande historienne. C'est une historienne qui a vraiment correspondu à ce qui devrait être notre devise, sine ire et studio, c'est-à-dire qu'elle a étudié sans préjugés et avec beaucoup de volonté d'approfondissement les divers moments de l'évolution, en particulier de la Russie et de l'Union soviétique. Évidemment, à côté de cela, il y a un côté personnel, c'est une grande dame qui a joué un rôle déterminant, bon, mais ça c'est la chronique dans mon élection à l'Académie française, mais qui à côté de cela m'a toujours, bien avant, encouragé dans mes études. Et je terminerai en disant que j'ai essayé de recueillir son héritage, parce que mon épée d'académicien, un peu rouillée en ce moment, bon, il faut la faire cirer, sur qui était d'ailleurs l'épée d'officier de cavalerie de mon grand-père, j'ai voulu faire inscrire, au moment où j'ai été élu, une devise qui, pour une épée, a une certaine importance, qui est un vers du chant L'Italie de Pétrarque qui dit « Io gridando pace, 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 je vais criant paix, paix, paix ». Qui a d'ailleurs eu un rôle diplomatique parce que Walter Rathenau l'a sorti au moment de la conférence de Gênes entre les puissances, qui a été le premier moment en 1920 où la République de Weimar sortait de son isolement international.
La paix et donc la civilisation qui l'emporteront sur la barbarie. Un grand merci, Maurizio Serra, d'être venu à notre micro pour partager ses propos clairvoyants. Je rappelle le titre, Munich 1938, la paix impossible, disponible aux éditions Perrin. Et vous serez en dédicace aussi le 24 mai prochain à la librairie Compagnie à 19h à Paris. Tout le monde est invité. On mettra les liens sur la page de l'émission. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Canal Académie.